Descartes et les passions.
C'est à l'instigation de la princesse Élisabeth que Descartes en vient, en 1646, à adresser ce qu'il appelle son premier crayon du traité des passions de l'âme. Si ce premier crayon ne le satisfait pas, c'est parce qu'il tente d'abord de distinguer les passions à partir de leur seule cause physiologique et que celle-ci s'avère commune à plusieurs passions. Or, il lui faut à la fois distinguer les passions des simples humeurs du corps d'un côté et des pures émotions de l'âme de l'autre, c'est-à-dire réfléchir à un critère qui mobilise l'homme tout entier, l'âme unie à un corps, ce qu'il appelle à 5 ou 6 reprises dans son œuvre le vrai homme. Si l'on s'installe à l'intérieur de cette troisième notion primitive ou de ce domaine de l'union de l'âme et du corps, les passions vont désigner le registre de la capacité que le corps a d'affecter l'âme en correspondance avec la force qu'a l'âme de mouvoir le corps. Une des affirmations les plus importantes de Descartes concernant les passions et ce qui le distingue du courant stoïcien notamment est qu'elles sont toutes bonnes de leur nature et qu'elles sont même d'autant meilleures qu'elles tendent plus vers l'excès. Autrement dit, ce qui va nous permettre de les qualifier ensuite de bonnes ou de mauvaises, c'est l'usage que nous en ferons. Nous allons les étudier, ces passions et leur usage, sous 2 angles successifs, celui de l'imagination d'une part et celui de la générosité de l'autre. Une des clés que nous propose Descartes pour une éthique des passions est de faire usage de notre imagination pour contrebalancer les effets éventuellement néfastes de l'une par les effets plus bénéfiques d'une autre. Ce pouvoir indirect dépend de certaines pensées actives sur notre corps est permis par une institution de nature ou par une institution divine d'un lien entre certaines pensées de notre âme et certains mouvements de notre corps, plus précisément encore d'un lien entre ces pensées et ces toutes petites parties du sang qu'on appelle les esprits animaux. On peut voir avec le cas de la tristesse comment les choses se passent. Prenons l'exemple donc d'un homme qui souhaiterait se défaire d'une passion triste ou de la passion de tristesse. Pourquoi aurait-il intérêt à s'en défaire ? Parce que cette passion, sur le plan physiologique, se caractérise par un ralentissement du cours des esprits animaux et par un accroissement de leur taille qui se traduit dans le corps par un refroidissement et par des risques d'obstruction, particulièrement de ces deux organes que sont le foie et la rate. Autrement dit, la passion de tristesse, lorsqu'on l'envisage sur le seul plan physiologique, met la santé du corps en péril. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de la passion de tristesse, si tant est qu'on le souhaite bien sûr? Le remède est simple, nous dit Descartes. Il consiste à se représenter toutes les raisons que nous avons d'être joyeux plutôt que d'être triste. Autrement dit, à persuader la joie à son âme pour contrebalancer les effets délétères de la tristesse. À faire ce qu'on appellerait aujourd'hui voir la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Dans le traité des passions de l'âme, par exemple, Descartes fait allusion à ces vieillards qui, dans des situations difficiles présentes, dans des situations de tristesse, sont capables de mobiliser en leur âme de la joie, de chatouiller leur âme, comme il le dit, par le souvenir de ces maux passés qu'ils ont été capables d'éviter. Pourquoi est-ce que la persuasion de la joie est utile, voire indispensable à la santé du corps chez Descartes? Eh bien parce que, contrairement à la tristesse, elle se caractérise par un rétrécissement de la taille des esprits animaux dans le corps, par une accélération de leur cours, par une augmentation de la taille des orifices du cœur, bref, par une fluidification, une accélération du cours du sang dans le corps qui contribue à désobstruer celui-ci, des pensées noires, de la bile, de la mélancolie, donc qui contribue à le remettre et à le maintenir en santé. Mais Descartes nous donne un remède encore plus efficace que l'imagination contre les mauvais excès des passions. Ce remède, c'est la générosité. Alors en quoi est-ce qu'elle consiste, cette générosité? Elle consiste en la capacité que chacun d'entre nous a de s'estimer pour ce pourquoi il peut légitimement s'estimer, c'est-à-dire le bon usage de sa liberté. Alors, on voit bien en quoi cette générosité désigne une vertu ancrée dans une habitude, dans une excis, à se comporter d'une droite manière dans toutes les circonstances de la vie. Mais on a plus de difficultés à voir en quoi elle peut désigner une passion. Alors, par rapport à ça, on peut formuler 2 hypothèses. La première consiste à revenir à cette nécessité de tester la générosité dans toutes les rencontres de la vie. Et on peut souligner à cet égard que pour justement l'incarner dans le monde, il faut un être doté d'un corps, et qu'ensuite, puisqu'il s'agit précisément de tester cette capacité, on ne peut pas savoir ou déterminer à l'avance de quelle manière nous allons agir ou quel type de principe nous allons suivre pour agir dans ce monde. C'est cette dimension d'action agie qui permet de définir la générosité comme une passion. Descartes n'affirme pas positivement, mais il n'exclut pas non plus, que la générosité doive s'incarner dans un corps dans lequel les humeurs s'équilibrent de manière parfaite. On voit bien comment elle aurait des difficultés à s'instaurer durablement dans un tempérament où prévaudrait la colère ou les excès de bile jaune, car cela ferait, en certaines rencontres de la vie, prendre de mauvaises décisions. Mais on voit bien aussi comment un tempérament bilieux ou mélancolique comme celui d'Élisabeth est susceptible de l'incarner. D'ailleurs, c'est bien Élisabeth que Descartes désigne à plusieurs reprises comme une âme forte, une grande âme ou une âme généreuse. La générosité est donc une passion en ce second sens où, pour s'actualiser dans toutes les rencontres de la vie, elle requiert de s'incarner dans un homme lui aussi passionné. La principale originalité de la conception cartésienne des passions consiste ainsi à aller rechercher la force de l'homme du côté de ce qui aurait pu sembler en désigner la principale faiblesse. De ce point de vue, son éthique n'est rien moins que désincarnée ou purement idéaliste.